Et donc oui, vous êtes donc bien sur une des chaînes sur Radio Galère 88.4. Et pour un peu déroger à notre habitude, et ben cette fois-ci, on va parler de prison.
On a déjà parlé un peu il y a quelques temps du collectif Kamel Lib. Il y a une soirée qui a été organisée samedi soir, dont on vous dira quelques mots. Et avant ça, ben, on va d'abord écouter un petit son qui est extrait d'un court-métrage qui a été diffusé justement samedi soir.
Dans cette ville d'environ 65 000 habitants, un numéro est associé au nom de tout nouvel arrivant. Ici, les déplacements sont limités et encadrés. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Ici, le maire de la ville est aussi le chef de la police et le président du tribunal. Et plus de 6 fois sur 10, les procès se déroulent sans avocat. Dans cette ville, la prise en charge sanitaire est déficiente. Aucune permanence de soins n'est organisée la nuit ou le week-end. Et il n'est pas rare de devoir patienter de nombreux mois avant de pouvoir rencontrer un spécialiste tel qu'un dentiste ou un psychiatre. Pourtant, la population souffre plus qu'ailleurs de pathologies somatiques et de troubles psychiques. Ici, la transgression du secret médical est fréquente. Dans cette ville, un habitant sur 5 est dans une situation d'illettrisme ou a d'importantes difficultés de lecture. Pourtant, l'écrit demeure le mode de communication de référence. Ici, l'école n'est ouverte que l'équivalent de 2 jours par semaine et on compte en moyenne un poste d'enseignant pour 140 élèves. Seulement 1% d'entre eux obtiennent leur bac dans l'année. Dans cette ville, le taux de chômage atteint les 70%. L'essentiel des travaux proposés sont ponctuels et rémunérés à la pièce. Ici, il n'y a pas de contrat de travail. Les personnes employées ne touchent pas d'indemnité journalière lorsqu'elles sont malades ou victimes d'un accident. Plus d'un tiers des habitants vit avec moins de 45 euros par mois. Pourtant, les biens de consommation sont parfois vendus 30% plus cher qu'ailleurs et l'aide sociale se résume à une trousse d'hygiène de première nécessité. Dans cette ville, les grèves, les mouvements de protestation, même pacifiques, sont interdits. Une simple pétition est immédiatement sanctionnée. Ici, les rencontres familiales et amicales sont soumises à autorisation, limitées dans le temps et surveillées. 30% des habitants n'ont aucun droit d'accès au téléphone. Les autres ne peuvent y accéder librement et leurs conversations sont systématiquement écoutées. Les autorités ouvrent, lisent et peuvent retenir les courriers. Dans cette ville, le problème de surpopulation est alarmant. Les logements où sont entassés les habitants sont vétustes, souvent insalubres et ne disposent pas de l'eau chaude. On y reste 22 heures sur 24, à 2 ou 3, dans une pièce de moins de 10 mètres carrés. Cette promiscuité dégradante engendre régulièrement des comportements de violence contre autrui ou retournés contre soi. Plus de 100 personnes se sont donné la mort dans l'année, près de 7 fois plus qu'ailleurs. Cette vie n'appartient pas au passé. Elle n'est pas non plus tirée d'un ouvrage de science-fiction. Ce quotidien, tel qu'il vient d'être décrit, est une réalité. La réalité pour 65 000 hommes et femmes détenus dans 195 établissements pénitentiaires. En France. Et aujourd'hui.
Alors, je vais dire quelques mots à la mémoire de quelqu'un, Alexandre Rousset, dit Lacas, qui a 33 ans, a été retrouvé pendu dans sa cellule du quartier d'isolement au bâtiment D des Baumettes. C'était mercredi 1er octobre. Voilà, quelques mots à la mémoire de tous ceux que la prison a tués. Alors, dans cette cellule, Alexandre a été laissé seul, alors qu'il criait qu'il demandait de l'aide depuis 3 jours au moins. Nous savons tous que la prison tue. Au fond, à quoi cela sert-il encore de continuer à le répéter ? Sans réfléchir en même temps à la possibilité d'en finir une bonne fois pour toutes avec la prison, avec le monde qui la produit et lui ressemble tant. S'il est difficile de parler sereinement de la prison, s'il est difficile de ne pas se laisser plomber par l'atmosphère poisseuse qu'elle disperse autour de nos vies, et ce n'est certes pas avec des larmes que l'on en viendra à bout. L'indignation n'a jamais fait tomber un seul mur. On ne viendra jamais à bout de la prison par le biais du droit ou de la loi, puisque c'est de leur pierre qu'elle est construite. Alors, exprimons notre solidarité avec les prisonniers en lutte, en portant leur combat à l'extérieur et le nôtre à l'intérieur. Nous aimerions faire vivre à nouveau tous ceux qui sont tombés entre ces murs, faire vivre leur mémoire à travers la lutte contre la machine carcérale, le monde qui la produit et qui lui ressemble tant. Une prison acceptable, est une prison qui brûle.
Matinale parce que c'est mon premier jour de parloir. Les bouchons du matin ne les mettront pas en retard. J'ai cette grosse peine à purger en récidive. Me voilà solitaire dans la froideur d'une cellule vide. Deux jours plus tôt, entendu par la police. Ils vont écouter mes voix sur des écoutes téléphoniques. Empreinte, prolique, placard à vie. Maintenant la brique nous sépare, rongée par des larmes acides. Puis j'évite les assises, pourtant mes lèvres sont scellées. Ta justice m'impose des limites de ma liberté. Ça sert à rien d'y berner, c'est toi qui te fais berner. Fin de parloir, LHSS ose venir ricaner. Bientôt mon tour à la fouille, sape l'œuf dans le sac. Baisse ton caleçon, donne-le, quelle parole de Dixa. C'est le calvaire du maléfice carcéral. Entre les séries de pompes, les tractions sous la barre. J'entends la nuit, les bruits sourds de la dépression. Les frères sous cacheton qui succombent à la pression. Rongé par le regret, sors-moi un livre de cul et je te trompe ma solitude au poignet. Parloir sauvage par la fenêtre pour parler avec les potes. Un voyage vers l'enfer de l'âme pour rencontrer la discorde. Une vie dans le feu qui nous a brûlés au troisième degré. Cloué dans un box, c'est la grosse peine de force et de gré.
Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort. Pour la société, je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté, on est à demi-mort. Pour la société, je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers.
Le vague meurtre passé, le vague à l'âme cesse. Les bonnes nouvelles dans les courriers, ça rend toujours gay. Ce connard vient de sortir du coma. En plus, mon mandat dépôt se termine dans 2 mois. Je sens les portes du pénitencier qui vont s'ouvrir. Les bâtards qui m'ont chargé dans l'histoire vont souffrir. Un coup de fil au portable pour annoncer la nouvelle à ma fille, à ma femme et à nos amis fraternels. Donc bientôt libérable, j'attends mon parloir avocat. Y'a que lui qui puisse me rassurer et me donner une date. J'ai rien connu de plus grave en espérant qu'il sort. Étouffant loin de son quai, j'ai de pensées si fortes que la zermise, quoi.
Eh, hey, parlons avocat.
Ouais.
Bonjour. Alors, c'est quoi?
Je suis désolé, madame la juge, veille à ce que vos mois deviennent des années. Votre affaire a des symptômes qu'ils veulent ramener à la lumière en vous maintenant à l'ombre, soi-disant. Faut dire que votre refus de dénoncer vos complices complique les choses, mais j'approuve et comprends. Pourvu qu'il soit reconnaissant, car c'est votre loyauté qui transforme vos espoirs en déception. Ils ont kidnappé votre temps pour que vous passiez votre temps à attendre. Après le temps, attention, parce que le temps prendra son temps. Soyez braves, rappelez-vous qu'ils veulent tuer votre révolution.
Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers.
Parloir avocat décevant, ce magistrat m'a vraiment coupé les jambes. Me voilà sans espoir, peut-être parti pour 10 ans. On disait au Tchekar que j'étais malin soi-disant. Mais je morfle loin des miens, j'ai plus de force frère. J'ai la signature comportementale suicidaire. Mécontent du verdict, je cherche à faire une bagarre. Je tourne seul en promenade et je suis devenu peu bavard. Plus que déçu, je dirais désabusé. Moi j'ai tout perdu et je suis à 2 doigts d'exploser. Bref, pour une fois me voilà seul dans ma triplée. J'ai moyen de me laisser pousser des ailes sans me faire crier.
Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté.
le nombre de suicidés dans le pénitencier.
Donc vous êtes toujours sur NDCHN 88.4 et on continue cette émission sur la prison. Du coup, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a deux invités pour cette émission. Du coup, je sais pas, je vous laisse peut-être vous présenter un peu et puis toi, tu voulais réagir sur.
Je voulais réagir sur le décès de d'Alexandre l'autre soir, l'autre nuit, l'autre jour au Beaumet. En fait, il avait fait. Bon, les médias disent qu'il avait fait une crise, une crise d'angoisse. Enfin, être enfermé, l'enfermement, tu peux. Voilà, t'as des moments où les personnes ne sont pas bien et personne n'est intervenu. On l'a juste passé au quartier d'isolement et semble-t-il, on l'a laissé tout seul face à ses angoisses en fait. Pourtant, on avait alerté.
Pourtant, les co-détenus étaient au courant qu'il allait pas bien.
Donc la pénitentiaire,
semble-t-il que la pénitentiaire
médical,
et même le service, le SMPR étaient au courant, voilà, de son état.
Parce que c'est pas non plus fréquent. Les gens quand même font pas tous des crises comme ça. Donc c'est quand même des cas particuliers qu'il faudrait quand même être vigilant.
Mais qui sont trop fréquents aussi.
Voilà, il avait pas, enfin, il était, enfin, il lui restait pas beaucoup de prison à faire, ce que disent ses co-détenus. Voilà, on n'a pas à rendre des cercueils aux familles. Voilà. Justement, bah, moi j'interviens parce que je m'occupe, j'ai repris une association, l'ARPI, peut-être certains connaissent. C'est une association pour, l'association pour le respect des proches des personnes incarcérées, donc des prisonniers aussi, des prisonnières aussi. Je suis à Marseille ici cette semaine parce que je suis descendue pour le collectif Kamel. Pour soutenir, donc vous en avez parlé de Kamel, vous avez lu des textes à lui, ouais. Voilà, et parce qu'à Paris, nous aussi, j'interviens moi aussi dans une émission de radio, un peu du même type que les vôtres, L'Envolée aussi, certaines personnes connaissent. Vous pouvez écouter sur le net, même à Marseille en fait, voilà.
Et du coup, ben, peut-être pour dire quelques mots sur le collectif Kamel Libre et sur cette soirée Bon, bah voilà, il y avait quand même quelques personnes qui ont fait le déplacement. Il y avait la famille qui était là de Kamel et qu'on remercie fortement de sa présence et des mots qu'ils ont pu dire. Parce que voilà, quand on enferme quelqu'un, bah, c'est aussi ses proches qu'on enferme quelque part et pour qui c'est difficile. Et voilà, et donc bah, il est temps de montrer à tous ceux qui nous écoutent notamment que Kamel n'est pas seul, qu'il y a des gens qui se mobilisent autour de son histoire. Du coup, bah, je vais vous donner l'adresse de Kamel, si vous voulez lui écrire, lui dire un petit mot, même juste envoyer une petite carte, voilà, qu'il sache qu'il y a des gens qui le soutiennent à l'intérieur, que l'administration pénitentiaire le sache aussi.
Peut-être juste vite fait quand même pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédentes émissions de NDCHN.
Bah, peut-être le mieux pour le présenter, ça serait sa sœur, peut-être sa sœur qui pourrait peut-être nous en parler. Bonjour, allô.
Oui, bonjour.
Et voilà, vous êtes à l'antenne, c'est donc la sœur de Kamel qui est là pour nous parler peut-être de lui et un peu de ce qui s'est passé donc samedi soir.
On s'est réunis pour soutenir, comme vous l'avez dit, Kamel et puis défendre en général l'intérêt des prisonniers et puis surtout dénoncer les non-peines qui sont en fait une hypocrisie totale de la justice en fait, puisque c'est les condamnations à mort. Voilà, donc je disais qu'il a été condamné à 25 ans alors qu'il a seulement 26 ans et que bah, c'est insoutenable et pour nous qui sommes à l'extérieur parce que finalement on est aussi condamné avec lui et pour lui parce que bah, d'une part ça sert à rien en fait hein, mis à part à le jeter et l'oublier, c'est l'objectif de la justice, bah de le tuer comme ça un petit peu, bah ils vont réussir en fait. Hein. Et voilà, ça, le tout, c'est de dénoncer voilà, des longues peines et que voilà, c'est une vengeance de la justice. Il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe en prison, sur comment nous, on le vit à l'extérieur aussi, que je m'éparpille et je ne saurais pas vous dire... Je ne sais même pas par où commencer. Mais voilà, le tout, c'est de retenir qu'il est condamné à mourir, en fait. Voilà.
Condamné à mourir, notamment si effectivement personne ne l'aide, et c'est le but du collectif de solidarité et de soutien
voilà,
à Kamel
Libre. Voilà, c'est ça.
Et donc où on invite tout le monde ici à essayer de se saisir du sujet, et notamment avec peut-être des méthodes et des pratiques dont on a parlé samedi soir et qui peuvent être un peu évoquées à l'antenne, parler de ce qui s'est passé, notamment de montrer son soutien via du courrier, ça d'une évidence, voilà. C'est toujours bien, de montrer notamment à Kamel, c'est important, mais aussi à l'administration pénitentiaire, qu'il y a des gens à l'extérieur qui s'inquiètent un peu de ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ne leur fera peut-être pas laisser tout faire en toute impunité. Et que Exactement. C'est ce rapport de force aujourd'hui qu'il faut changer. Il ne s'agit pas, même si on aimerait voir tomber ces murs, aujourd'hui de les faire sauter. Il s'agit simplement de surveiller un peu et de soutenir. Notamment à savoir que pour ce qui est des longues peines qui sont à l'intérieur et qui vont peut-être réussir à résister à ces 15 années ou 20 années qui vont prendre pour certains. Et là, j'espère, je ne pense pas, et je ne parle pas de Kamel, que pour sortir de là indemne, il faut du soutien à l'extérieur, enfin indemne, pour sortir de là à peu près vivant, il faut du soutien à l'intérieur, à l'extérieur. Et que ce n'est pas un détail, toutes ces petites cartes postales, ces efforts à venir les voir, à les soutenir, à parler de ce qui se passe dedans, n'est pas un détail pour ceux qui sont à l'intérieur. Il y aurait encore peut-être autre chose à rajouter sur Kamel.
Sur Kamel, voilà le souvenir. Donc les, je ne sais pas si je peux donner l'adresse.
C'est un peu l'idée, on te l'a donné. On propose à tout le monde de prendre un crayon déjà, mais on va donner l'adresse plusieurs fois pour lui écrire notamment.
Du coup, voilà, si vous voulez lui écrire à Kamel, c'est Kamel Bouabdallah. Alors son numéro d'écrou, c'est le 17 35 35. C'est au bâtiment D, à la MAH, Centre Pénitentiaire des Baumettes, 239 chemin de Morgiou, 13009, Marseille. Et si vous voulez contacter le collectif de soutien à Kamel, qui a besoin notamment de finances, de soutien financier, mais aussi de coups de main divers et variés, vous pouvez le faire à l'adresse email kamellibre, donc c'est tout attaché, kamellibre.collectif@gmail.com.
Voilà, et aussi on a le Facebook aussi, donc n'hésitez pas à réagir et à laisser des commentaires sur le Facebook Kamel Collectif.
Parce que oui, justement, il y a son appel à Kamel. C'est pour ça qu'on va pouvoir...
On espère un peu moins d'une année avant qu'il repasse en procès pour éviter de prendre ce quart de siècle en pleine bouche. En espérant que d'ici là, encore une fois, ça c'est pas un détail, le soutien, le comité à l'extérieur, et quand on parle de finances, c'est pas pour aller faire la fête, c'est parce que voilà, avec un avocat un peu qui aura le temps de travailler son dossier, qui réclame toujours forcément un petit peu d'argent, ils fonctionnent pas d'amour et d'eau fraîche ces gens-là, escargots qui sont, et donc c'est essayer de savoir qu'en général, il y a un cliché même de prisonniers qui sont là pour un peu faire exemple pour tous les autres, des gens qui sont enterrés d'avance avec un parcours qui correspond non pas à ce que voudraient, mais exactement à ce qui permet à eux de les envoyer en prison toute leur vie, justifiant tous les autres crimes qu'eux-mêmes font en enfermant. On le rappelle aujourd'hui, 70 000 personnes quasiment. Aujourd'hui sous écrou en France. Donc, c'est pas seulement ne pas laisser faire, c'est surtout être en colère. Et donc, de faire passer ce message qu'on vit dans une société qui, tous les jours, condamne, et avec des juges qui envoient des centaines d'années de prison par jour, sans avoir jamais foutu un pied. Et je citerai quelqu'un d'ailleurs, j'aurais peut-être un peu transformé ses paroles, mais c'était d'ailleurs pour le coup Christophe, lors de son procès, qui disait à tous les juges qui distribuent la prison par année. Ou même par mois, sachez qu'elle se vit en heures, en minutes, et que quand tu comptes les secondes, c'est que la fin n'est pas loin. Voilà, donc c'est une invitation large et forte à soutenir tous les prisonniers, et d'autant plus ceux qu'on a déjà largement condamnés à mort en les enterrant vivants, qu'ils aient ou pas à subir ensuite des QI ou pas, vu leur résistance, ou qu'ils aient à subir la charge permanente de l'absurdité et de l'incrédible qui se passe en prison.
D'autant plus que voilà, personne n'est à l'abri et que voilà, l'occasion se présente, il faut qu'on se réunisse et par le biais de l'affaire de Kamel qui sera du coup bientôt rejugée, par son histoire, par ce biais-là, faire entendre la voix de toutes les familles de personnes incarcérées et de parler, peut-être pas de parler pour eux, mais de les faire entendre parce que malheureusement, voilà, une fois qu'ils sont à l'intérieur, il n'y a plus personne qui se préoccupe d'eux, mis à part leur famille, mais bon, ils sont invités par la justice, la population qui finalement ne se rend pas compte que personne n'est à l'abri de se retrouver en prison, d'avoir un proche incarcéré. Voilà, pour quelle que soit peu importe la raison, il n'y a personne qui est à
l'abri. Personne n'est à l'abri de la prison, voilà. Personne n'est à l'abri de la prison. On n'est pas à l'abri, ça c'est clair.
Peut-être tu voulais dire quelques mots
Oui, de la part du collectif, je voulais juste faire un résumé de la soirée. Un résumé pour encourager les initiatives pour faire des autres collectifs comme le nôtre. Donc c'était le 4 octobre, samedi soir passé. Et je considère, tout le monde a considéré comme une soirée très sympa déjà et bien réussie aussi. Et déjà, c'était bon pour nous, pour se rencontrer dehors. Et je voulais dire, rencontrer entre nous des gens qui déjà ont travaillé autour, comme on donne soutien aux prisonniers. À la fois, on avait une bonne... moment de rencontre avec des gens qui sont venus de Paris, donc Sylvie Picciotti pour présenter l'ARPI, Afed Ben Othman pour présenter un volet, Alain Cangina pour présenter l'association Renette de Lyon. Et surtout, on a reçu beaucoup de soutien pour Kamel. Soutien économique, pas mal, même très bien. Et surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui ont offert pour écrire échanger des correspondances avec Kamel. À la fois, déjà le lendemain, on a reçu plusieurs emails pour conseiller, donner un conseil pour choisir l'avocat, des conseils, ou s'offrir pour travailler avec nous dans le collectif. Et c'était justement un très bon moment pour faire un lien avec la famille, ou surtout pour encourager la famille, et surtout pour que la famille ne soit pas isolée et seule. Et à la fois qu'on m'a posé la question pourquoi Kamel, et justement pourquoi Kamel, parce que par hasard, parce qu'on a connu Kamel. Donc même si c'est difficile pour un prisonnier qui est enfermé avoir un lien à l'extérieur, mais c'est possible. Et c'est pour ça que je voulais juste encourager toutes les personnes qui ont envie de soutenir un détenu, de le faire parce que c'est une très bonne expérience.
Et... Parce que des petits mecs comme Kamel, il y en a de plus en plus. Des petits mecs qui connaissent la prison depuis jeunes et qui ont des parcours et ont vraiment un truc exceptionnel. On leur met 25 ans, alors qu'il y a 10 ans, on aurait mis 6 ans. On sait que la justice, elle est arbitraire, elle est aléatoire, c'est clair. Mais il y en a de plus en plus, la même semaine, des petits mecs aussi de Lyon, des peines qui vont jusqu'à 20 ans, pareil. Ça va venir. Voilà, t'es Christophe Kider qui prenait des 25 ans en 95. Maintenant, il va y en avoir des centaines. Voilà. Et juste, c'est une élimination sociale. Voilà.
Voilà, merci. Et donc, on rappellera l'adresse encore à la fin pour ceux qui n'auraient pas pris un stylo. Mais l'idée, c'est que, voilà, une petite lettre, une petite carte postale. Ça coûte pas grand-chose.
Et ça fait plaisir à l'intérieur, le matin.
Et on attend l'initiative des gens qui veulent collaborer avec le collectif, qui peut écrire une email, kamelliv.collectif@gmail.com. Et même si peut-être il y a des personnes qui ne peuvent pas s'engager d'un travail de toujours, mais du moins quand il y a une soirée, une prochaine soirée, pour donner une petite aide. Ça sera très bienvenu.
Et les prisonniers aussi peuvent eux, ils ont besoin de soutien parce qu'ils sont plus isolés, ils écrivent aussi.
Allons voler, dans tous les cas, on le dit sans cesse.
Allons voler à NDCHN aussi, au 41 rue Jobin, 13003 Marseille.
HD7.
Voilà. Pour continuer à parler un peu aussi des mobilisations autour des détenus à l'intérieur, on va laisser la parole à Catherine.
Voilà, comme ça, ça sera. Voilà, on va parler un peu de l'harpi. On laisse la parole à Catherine.
En plus du changement de couleur, des pigmentations dues au manque ou à l'absence totale de soleil, un changement d'humeur et de tempérament s'opère sans que ce soit perceptible. Seul un tiers peut vous le faire remarquer. Mais pour cela, faut-il encore avoir des visites, ce qui est malheureusement loin d'être le cas pour tout le monde. Donc la possibilité de se recroqueviller sur soi est plus que probable. L'obligation de se blinder pour encaisser tous les coups durs induits par la pression de l'isolement sépare les hommes en deux catégories. Ceux qui deviennent plus forts, ceux qui craquent. Dans les deux cas, la psychologie et la perception du monde est faussée, dénaturée, parfois tordue et fantasmée. Résultat, les uns prennent des cachets et coulent à pic, les autres font peur à la paix, car perçus comme inoxydables et en quête de vengeance. Du coup, le fantasme est du côté de la paix qui décrit ces hommes comme ultra dangereux et irrécupérables. La famille et les proches, entre parenthèses s'il y en a, voient une personnalité évoluer sans pouvoir faire quoi que ce soit. La famille morfle autant si ce n'est plus. Plus. Cet état de fait ressenti des deux côtés est programmé et entretenu par la paix afin de faire fuir les rares qui résistent auprès des proches incarcérés. Sachant cela, l'homme isolé psychologiquement, physiquement, sensoriellement, perd tous ses repères, voire la tête. La famille et les proches sont aussi isolés. En résumé, il y a ceux qui combattent, ceux qui abdiquent. Les premiers ont compris qu'il n'y avait pas d'autre choix, les autres croient au pire des poisons existants. L'espoir. Voilà, donc c'était, je viens de le découvrir et je crois que ça résume, je sais pas, Saïd, toi qui as fait 25 ans de prison.
Bah oui, disons que moi j'ai fait 9 ans d'isolement hein, sur ma peine, donc je connais un peu le truc. Et j'ai vu passer des types qui restaient seulement 3 ou 4 jours et qui devenaient tout blancs, qui pétaient les plombs, qui prenaient des médocs.
Des types qui avaient des longues peines.
Des peines normales, mais qui faisaient seulement quelques jours d'isolement et qui pétaient carrément les plombs au bout de quelques jours. Quoi. Bah, pas que tu t'habitues, hein, de toute façon, t'as pas le choix. Hein.
Non.
Mais c'est quoi, toi ?
Non, mais tu t'habitues à l'isolement, je veux dire, ou alors pas à l'enfermement. Tu t'habitues ou alors tu te suicides, quoi. Il n'y a pas d'autre solution.
Voilà.
Donc, si on décide tous ensemble de poser cette mobilisation et de dire, les gars, on ne peut rien faire sans vous, déjà, les quartiers d'isolement, ils vont se bouger. J'ai des gars qui attendent déjà, même dans les centrales, des mecs qui attendent, etc. Si on relaie la parole sur les différentes radios des uns et des autres, déjà, qui sont liées à l'intérieur, d'accord ? Si on coordonne le truc, cette semaine, c'est toi qui le dis, moi, dans 15 jours, je le dis, la semaine prochaine, c'est toi, et ça tourne comme ça. Et on lâche pas le mot d'ordre. Les mecs, on compte sur vous, on ne peut rien faire sans vous. On trouve un slogan pour terminer chaque émission. Tu vois ce que je veux dire ? Le lien, il se fera. Alors, moi, je te garantis rien, c'est toujours facile de l'extérieur de le faire. Mais je sais que si moi, je demande à 2-3 potes, à mes fils, de faire passer des messages, ils vont passer les messages. Et Cyril lui-même, qui était à l'intérieur, entre les lignes, on lui faisait lire cette phrase. « Dites à votre maman d'arrêter de se battre dehors, et peut-être on va s'arranger. » Claude Darcourt, la lettre qui m'écrit le directeur de la pénitentiaire, dans sa lettre de réponse, j'avais mis 7 pages à Darcourt sur Internet, et ben le mec, il m'a répondu. Et entre les lignes, on pouvait lire clairement, si vous arrêtez votre bordel, on pourra discuter. Et ça s'arrangera pour Cyril, c'est ce que ça voulait dire. Mais Cyril leur répondait automatiquement, ma mère, si elle ne s'était pas battue pour moi, je serais mort. Vous m'aviez déjà pété 3 côtes, vous m'aviez déjà cassé 2 fois, vous m'aviez déjà cassé la cheville, j'avais déjà été empoisonné 2 fois, etc., etc. Donc c'est sûr qu'ils font la pression quand tu te bats à l'extérieur.
À partir du moment où vous arrivez tous à vous mobiliser, ça ne pourra qu'après nous aider parce que quand on fait des recours, si on fait pour un, on peut faire pour deux. Et c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Donc toute association, à partir du moment où ça vous permet, famille, et ben de vous réunir et puis de vous battre sur le fait de ne pas pouvoir rentrer au parloir parce que vous avez une heure de retard. Effectivement, il faut de toute façon de la réunion parce que, enfin, je ne sais plus qui disait, mais ils veulent à chaque fois dissocier tout le monde, que ce soit l'intérieur, l'extérieur.
Mais si on ne résiste pas à chaque fois, si on était... alors bien sûr, ça a un côté utopiste, mais si on résistait à plusieurs, à chaque fois, face à des textes de loi, quand je les entends, les nouvelles lois pénitentiaires, elles ont été votées, s'il y avait des vraies mobilisations dans des moments comme ça, on dit « Merde, on n'en veut pas de votre loi, on n'en veut pas pour telle et telle raison ». D'accord, on n'est pas d'accord. Et qu'il y ait une frange de la population qui se met en faux, qui se porte en contrepoids à la fatalité, eh ben, je pense qu'on pourrait... Je ne dis pas que ça changerait. C'est pas en débarque, une association elle débarque un jour et qu'on change le monde. Ça serait trop simple. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de résister et commencer par écrire. Simplement, pour moi, c'est la résistance civique, déjà, pour reprendre un mot à la mode, ou citoyenne. Tu vois, déjà, c'est un acte de résistance, dénoncer, écrire, se réunir, se mobiliser, dire, etc. Donc, il faut aller vers ça et il faut le faire à plusieurs. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on le croit qui en ont marre. Seulement, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Et c'est ça, il faut informer, il faut sans arrêt, il faut sortir de nos trous du cul. C'est pour ça que le monde va mal et il pue, parce qu'on vit dans nos trous du cul.
Parce qu'on vit dans nos trous du cul, le monde pue. Et voilà, ça c'était le franc-parler de Catherine Charles, donc présidente de l'ARPI, malheureusement décédée aujourd'hui, et qui savait prendre à bras le corps cette association pour soutenir donc les parents, les proches de détenus.
En tout cas, le message que Catherine elle fait passer, il est assez clair. Je crois que voilà, on sait que malgré tous les coups bas de la paix et de la justice, ben faut pas lâcher l'affaire. Il faut que à l'extérieur, on bouge aussi, quoi. Voilà. Parce que voilà, à l'intérieur, ben il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des solidarités entre détenus, mais à l'extérieur, c'est important aussi de montrer qu'on est là, qu'il y a du monde et que.
Mais on pourra pas bouger aussi sans les personnes à l'intérieur.
Voilà.
Ça. Voilà, on peut pas faire des blocages pour.
Et ouais.
Voilà.
Le soleil mat, perce à peine les vitres opaques de ma cellule. L'atmosphère est moite, autour de moi les blattes pullulent. Le grillage aux fenêtres m'empêche de voir dehors. De toute façon c'est toujours le même décor, la même coupe, le même mirador. Face blême déphasée, au chichon défoncé. Je trouve la force de plaquer sur mon bloc dans mes pensées. Enfermé là, je fais les 100 pas et je pense aux dégâts que ces 10 ans vont causer dans ma vie dans les prochains mois.
Fais tort à l'intérieur et rien n'en sort, j'en souffre. La rage m'étouffe et je tombe comme une pierre dans le gouffre. Enterrée vivante dans la louverie, privée de souffle, j'ai appris
à hurler.
Pas comme l'agneau qu'on égorge, mais comme nous affamer les mille propositions du hasard qui s'estompe mille plaies ouvertes chaque seconde et amorce le décompte. L'apprentissage de l'éternité, 100 jours, 100 ans, faut que j'apprenne à compter.
Sache que ma vie
ici,
je vis clos. On s'est fait piquer
bêtement.
Tout ça,
maintenant,
je nous a fait manger la gamelle.
Pour combien
réduit un enfer
carcéral,
cancer
viscéral.
On est là dans un huis clos
infernal.
La vie que je mène ici me dégoûte, fait planer le doute sur moi. Mais des obstacles sur ma route. Ce voyage dans la soute me laissera pas intact. Pourtant, oh non, jamais, avec le diable, j'ai fait de pacte. Intact était ma vie jusqu'ici. Loin de moi, les képis, les flics, les fusils, calibre, flingue et autres usines. Est-ce un destin pourri ou l'accumulation des soucis qui paraît soir d'avril me pousse à faire des conneries?
C'est dommage, j'avais une famille, un job au black, un chien cool, je touchais même le chômage. Qu'est-ce que je vais traîner avec cet associé jaloux dont l'amitié était basée sur des rapports flous?
Mon avocat, il m'avoua que pour moi, eh ben c'était moute, putain, pourquoi? Coûte que coûte. Faut-il que le doute, la guigne et les emmerdes viennent se mettre au travers?
Je pense, sous cas, je suis ici, ça candave, pourri jusqu'à l'os. Des gouttes coulent sur mes joues quand je pense à mes gosses. Ma force, pour eux, je bombe le torse, me donne de l'espoir. Quand je vois leur sourire à travers les vides sales du parloir.
De la fenêtre à la porte, seulement 10 pas, un truc carré pour pisser, un supplice et rien d'autre. Faut-il que je laisse mon passé filer, que je baisse les bras? Je ne peux pas me nier ni tomber plus bas.
Parce que ma vie,
ici,
je vis clos.
Bêtement, maintenant,
je nous a fait manger la gamelle.
Pour combien
réduit un enfer
carcéral,
un cancer
viscéral.
On est là dans un huis clos
infernal.
On s'est fait piquer
bêtement,
maintenant, je nous a fait manger la gamelle.
Pour combien
ici on te traite comme une merde alors sois une bête. Garde la tête haute, fais des pompes et protège ton cul. Foutu dans ce rebut, malgré l'éducation. Au début tu t'en fous, mais après j'ai déçu. Les murs de ma cellule sont tagués. Je reconnais des potes du quartier, yo, ils vont me manquer. Enfermé comme un fauve dans cette cage, tu dois que dans ce 4 mètres carrés.
Ma seule force et ma rage.
On réagit en fonction de rien ici. En dépit de tout, dans ce trou les rats sont partout. Alors on s'occupe comme on peut, et c'est
tant mieux. Mais le temps ne passe pas et les événements deviennent dangereux.
Faut que j'échappe au frottement, dans les douches, les cours, les ateliers. Je fais gaffe au glissement, les succubes en furie cherchent un amant. Changeant comme des toupies, violente comme des macs, prêtes à l'attaque.
Si ton goût au taille ou quand tu batailles, un conseil qui se vient à la moelle, on anticipe tes funérailles. C'est comme si elle fils, c'est ceux qui t'aiment et celles qui rêvent de voir plus vite ensemble sur les hauteurs de crucifix. Même écroué dans cette zonzon, notre seule ambition après l'évasion, brasser du pognon. Pour les clopes, les lits de salope, la bouffe, le shit, les paris. Et pourtant c'est la top. Ma vie,
ici,
c'est huis clos. On s'est fait piquer,
bêtement, maintenant.
J'ai tout à fait mangé la gamelle.
Pour combien déjà
réduit à un enfer.
Carcéral,
c'est qu'on sait,
le sural.
On est là, dans un huis clos,
infernal.
On s'est fait piquer,
bêtement, maintenant.
J'ai tout à fait mangé la gamelle.
Pour combien
déjà.
Et les heures qui passent comme des déserts.
Je deviens fou et je peux plus rester là.
Tu vois où va la vie, c'est pas normal. Sache que j'ai pris 10 ans. Derrière les barreaux, j'avais pas prévu. Trop dur à supporter un tel destin. J'ai pas de chance. Et puis c'est pas tout.
Donc voilà, vous êtes sur une des chaînes, toujours sur Radio Galère, au 88.4, a priori ça n'a pas changé. Et donc, pour le coup changer, voilà, on parlait de prison, et donc notamment à ce rendez-vous le 4 octobre, et on sait que vous êtes plein à l'avoir raté, et c'est bien dommage. Eh bien, il y avait deux charmants invités, et notamment le fameux Hafed Ben Othman, avec 17 ans au compteur, comme on pourrait dire. Il n'y a pas de quoi être fier, mais il les a quand même fait. Et donc, pour ce qui est du sujet de la prison, il la connaît bien, notamment pour le coup cofondateur du journal L'Envolé. Il était venu non pas parler de L'Envolé de lui, mais parler de Kamel. Ça nous a fait à tous très plaisir, avec toujours plein d'idées, plein de propositions qui partent dans tous les sens et qui, on espère, arriveront quelque part. Encore une fois, merci à Fed, merci pour Kamel. Et donc il se trouve que voilà, une des chaînes qui connaît que des gens fréquentables avait eu la chance, l'honneur de déjà l'inviter, c'était en 2009. Et pour l'occasion, dans une petite masure dans le grand nord de l'Estac, on avait pu l'interviewer, d'ailleurs pouvoir profiter autant des petits oiseaux de là-bas que des avions de Marignane. Et donc on s'était dit, mieux que tout pour connaître ce personnage et tout du moins ce qu'il en pense, peut-être le plus simple, c'était d'écouter cette interview, de rappeler à tous nos chers auditeurs et fidèles de NDChaîne que voilà, depuis de longues années maintenant, on sévit sur ces ondes et que vous pouvez retrouver nos méfaits sur le site donc NDChaîne, sur votre moteur de recherche le plus détesté. Et donc, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, on va écouter donc du coup Hafed partie 1. Et on est parti donc pour un peu plus d'un quart d'heure. Et on va essayer, pour vous faire respirer un peu, de l'entrecouper d'une petite musique qui avant 12 minutes qui suivront. Donc c'est parti pour quasiment une demi-heure avec Hafed Ben Othman, le méconnu, le plus connu.
Notre ami Hafed va commencer par se présenter. Donc voilà, ancien prisonnier.
Oui.
Voilà, futur prisonnier.
Il y a des chances.
Voilà. Donc, combien d'années ?
J'ai fait en tout 17 ans.
Et combien d'isolement ?
Jamais d'isolement.
Prisonnier exemplaire ? Prisonnier exemplaire ?
Du tout, non. J'ai été toujours en fin de peine, donc j'ai pas tellement été exemplaire, puisque sinon j'aurais bénéficié un jour ou l'autre d'une conditionnelle ou une chose comme ça. Par contre, j'ai été pas isolé, parce qu'on peut pas appeler ça isolé. Je me suis retrouvé au DPS.
Donc particulièrement surveillé. Voilà.
Et j'ai fait pas mal de mitards. Mais j'ai pas connu ni l'isolement, ni les QHS, ni toutes ces choses-là.
Est-ce qu'il y a une imagination possible en disant aux gens, vous allez aller en prison, donc tant que vous êtes dehors, non. Faites-vous des liens à l'intérieur.
Non, parce que le mauvais sens populaire, il y a le bon sens populaire, il y a aussi le mauvais sens populaire, est idem, c'est ça n'arrive qu'aux autres. Donc c'est très très difficile de projeter sur l'avenir. Ce que d'ailleurs l'État fait, lui, en disant, avec les peines de rétention, en disant on va les garder en prison parce qu'ils vont commettre des crimes. Bon, l'État est capable de dire, de prévoir l'avenir comme ça. Mais là, de avertir, conscientiser des personnes sur ce qui se passe à l'intérieur des prisons parce que en 2012, 13 ou 15, ils y seront. On peut pas.
Non, mais en plus, c'est un peu tordu comme.
On peut pas leur prévenir cet avenir-là.
T'as les jeunes qui disent que de toute façon, ils sont de la chair à prison.
Bien sûr.
Et ils savent en termes de pourcentage le nombre de chances qu'ils ont d'aller à l'intérieur. En petite peine ou plus ou moins longue peine, parce qu'on aura l'accident, quoi.
Parce qu'eux sont déjà dans un enfermement et savent qu'ils vont passer d'enfermement en enfermement. Et que le dernier, c'est l'enfermement architectural de la prison, c'est-à-dire les murs, les barreaux, les verrous, etc. Donc ils le savent. Et parce qu'ils ont le même parcours, ou disons le même chemin que leurs aînés qui, eux, y ont été. Donc ils savent que ça passe par là. Que la prison va être une étape dans leur vie et. Et ils sont lucides, parce qu'ils savent qu'ils sont en état de légitime défense sociale, donc ils sont dans l'obligation d'aller voler pour pouvoir vivre.
Donc est-ce que ce serait possible qu'un mouvement social puisse partir des prisons ?
Bah, la prison, c'est déjà en lui-même un mouvement social. Le fait de rentrer en prison, c'est que tu as refusé quelque chose à l'extérieur.
Alors,
donc, ce refus-là,
est déjà... être le début d'un mouvement social révolutionnaire ?
Non, parce que trop individualiste. Et chacun est dans la gestion de sa peine. Maintenant, s'il y avait une égalité dans les peines, si les peines étaient égalitaires, il pourrait y avoir. Mais là, c'est trop inégal. Un homme qui a 20 ans à faire ne peut pas, ne se révoltera pas de la même manière qu'un type qui a 2 mois à faire. Parce que le problème, il est là. Et dans les maisons d'arrêt, on ne met jamais 2 grosses peines ensemble. C'est un type qui a pris 20 ans et un type qui risque 20 ans, on ne les met pas ensemble. On met toujours quelqu'un qui a une grosse peine et quelqu'un qui en a une toute petite. Ça veut dire que, enfin... Il n'y a pas de petite peine, mais qu'un temps de prison plus court. Et ce prisonnier qui a le temps de prison plus court gère le type qui a 10 ou 15 ou 20 ans à faire. Parce qu'il lui dit, écoute, je sors dans 2 mois, fous pas le bordel parce que ça va me mettre dans la merde. Et donc quand ce type a fait ses 2 mois et qu'il sort, l'administration pénitentiaire remet une autre pseudo-petite peine.
Courte peine.
Voilà. Et c'est pour ça que les mecs ont des grosses peines en maison d'arrêt, des fois pètent les plombs. Et qu'il y a de la violence dans les cellules. Parce qu'il en voit passer un, il sort, un deuxième, il sort, un troisième, il sort, et le mec il devient...
Lui reste.
Et le mec devient fou, parce que la plupart du temps, quand les mecs ont des courtes peines, ils arrivent, ils n'ont rien. Donc c'est celui qui est là depuis un peu plus longtemps, qui dépanne le café, les cigarettes, le tabac, le... Voilà. Donc il y a des fois même qui donne des fringues. Alors quand il les voit défiler comme ça dans sa cellule, eh ben, il devient cinglé, dans ce cas. Il devient cinglé, et... Il bataille pour être seul en cellule, par exemple, eh ben, il va passer par la case mitard pour être seul en cellule. C'est-à-dire, il va faire 2 fois, 3 fois du mitard jusqu'au moment où l'administration pénitentiaire dit « Ok, on va le mettre tout seul ».
Là, par exemple, juste là pour la solidarité, par exemple, les gens qui passent ces courtes peines, qui passent et qui donc rencontrent ces longues peines, en général, il y a un suivi, ils s'écrivent, ils se parlent, il y a un peu de solidarité qui a lieu.
Très rarement.
Très rarement.
Très rarement. Pourquoi, quand il y en a qui ben, parce que le lien d'amitié se fait en lieu clos. Et c'est des amitiés, obligées, et puis c'est des amitiés pourries. Le lien se fait par nécessité sur place. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui sortent et qui promettent. Je vais t'écrire, je vais t'envoyer des sous, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, ça tient pas. Parce qu'à l'extérieur, quand le prisonnier sort et qu'il est à l'extérieur, il est pris dans d'autres enfermements qui fait que le temps passe et puis il oublie celui qui est à l'intérieur. Voilà. Sauf quand on est affinitaire, mais depuis des années. C'est-à-dire quand on a ce qu'on appelle un principe carcéral qui est celui d'une délinquance qui n'est pas une délinquance sociale, qui est une délinquance professionnelle. On sait qu'on soutient l'autre.
Et pour d'autres détenus qui disent que s'ils n'avaient pas été en prison, ils n'auraient pas pu lire, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Et certains, je ne citerai pas, disent que grâce à la prison, ils ont pu comprendre plein de choses et du coup grandir. Alors que s'ils n'avaient pas été en prison, ils auraient passé leur vie à l'usine et que finalement, ils ne se seraient jamais révoltés.
Oui, oui, mais c'est pas grâce à la prison. C'est pas grâce à la prison.
Ils auraient très bien pu se révolter à l'usine aussi.
Bien sûr. C'est d'une manière différente, oui. Mais c'est grâce aux rencontres. C'est grâce aux rencontres qu'on fait, donc c'est grâce aux autres prisonniers qu'on évolue. Il y a toujours un prisonnier qui dit « Tiens, prends ce bouquin, il est bien ». C'est pas la prison qui te dit « Tiens, prends ce livre ». C'est pas un surveillant de prison qui te dit « Tiens, tu devrais t'inscrire à la bibliothèque et aller lire un livre ». Ou « Tu devrais t'inscrire à l'école et suivre un cours ». C'est les autres prisonniers qui le disent. Donc c'est pas la prison elle-même, c'est les rencontres. Et effectivement, les rencontres, tu peux les faire à l'usine, à l'hôpital, n'importe où.
Justement, par rapport à cette question, comment ça paraît possible de plus avoir peur des détenus quand on est un détenu ?
Ah ben c'est les affinités intérieures qui font que t'as pas peur des autres prisonniers.
Normalement, on devrait pas avoir peur. On est dans la même. Normalement, il y a un peu le côté, on est dans la même galère qui devrait exister.
Oui, mais on a toujours peur d'une foule enfermée. C'est-à-dire même à l'extérieur, t'es pris dans un mouvement de foule, les portes sont bloquées de n'importe quoi, d'un supermarché, d'un hôpital, d'un aéroport. La foule t'effraie parce que la bousculade t'effraie. Là, c'est pas dans la prison. Il y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire, si tu as un problème dans la prison, tu ne peux pas changer de trottoir, changer de quartier, déménager. Tu es avec les autres. Voilà. Et les autres créent une espèce de spirale. C'est, d'ailleurs, les prisonniers tournent en rond. Les autres créent une espèce de spirale dans laquelle tu es pris. Tu es pris, tu descends en promenade, tu vas au sport, tu es vraiment avec les autres. Et il y en a beaucoup qui sont craintifs quand ils arrivent pour la première fois en prison, parce qu'ils ont eux aussi tous les fantasmes de la prison. Par exemple, un primaire qui arrive pour la première fois en tôle, parfois, il ne descend jamais en promenade. Parce qu'il pense qu'en promenade, on va le voler, le raqueter, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui est en plus, ce qui n'est pas du tout le cas.
Ouais, bah, justement, pour ça, en fait, il n'y a pas forcément toute cette haine entre détenus, non, ces bagarres permanentes,
non, non, parce
ces
que si,
viols
si,
un peu en, bien dans les
non,
douches, tout
bien
ça,
sûr c'est, que non. Mais, de... c'est, mais le discours politique de l'État nous fait passer pour des barbares par rapport à ça. Ça les arrange.
Ça justifie l'enfermement.
Ça motive un peu plus la peur.
Là, exemple, à Fleury-Mérogis... Il y a 200 prisonniers dans les cours de promenade, 200 en même temps. Ils ont parlé de l'ultra-violence dans les cours de promenade de Fleury-Mérogis. Mais ça existe depuis les années 60, Fleury-Mérogis. Et les cours sont comme ça depuis les années 60. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire passer le truc en disant l'ultra-violence, il faut qu'on cloisonne. Donc, on fasse des petites cours de promenade comme à Fresnes. Ça veut dire que ça va être des petites cours où les détenus seront 10 par 10. Comme à Fresnes. Ça fait, non pas pour éviter la violence entre prisonniers, c'est pour les cloisonner. Parce que 200 dans une même cour, quand ça fait un mouvement, c'est chaud. Tandis que 10 dans une courette, quand ils font un mouvement, ils envoient les hérisses et puis c'est calmé ce qui se passe à Fresnes. C'est pour ça que Fresnes est une prison un peu plus dure. Beaucoup de prisonniers la redoutent parce que c'est très cloisonné. On sort 10 par 10. Moi, j'étais en promenade, on était deux. Deux mecs.
Ça m'évite voilà.
Donc l'ultra-violence, c'est le discours pour pouvoir cloisonner. Et éviter parce qu'ils créent des émeutes.
Quand est-ce qu'on a plus peur de la prison? Faut-il avoir peur de la prison? Peut-on ne pas avoir peur de la prison?
On a plus peur de la prison quand on commence à savoir nager à l'intérieur. Parce qu'il y a des codes à l'intérieur de la prison et il faut les connaître. Et la manière de les connaître, c'est éviter le bitard, savoir comment être seul en cellule, savoir parler non pas aux surveillants, mais aux chefs de détention. Parce que c'est les chefs de détention qui tiennent la prison, c'est ni le directeur ni les surveillants. Et t'as plus peur de la prison quand la prison t'a donné ton statut. C'est-à-dire quand t'arrives dans une prison et que les surveillants et toute la hiérarchie disent « Ouh là là, celui-là, faut pas l'emmerder ».
Et donc comment on fait, par exemple, quelqu'un qui a pas fait de prison et qui va avoir envie d'agir contre cette société et qui sait plus ou moins, effectivement, au-dessus de lui, l'épée de Damoclès, de la peur de la prison? Est-ce qu'on peut dépasser cette peur sans avoir été? Dans le sens où ça vaut la peine de ne pas avoir peur, quand même.
Bah une fois que tu es dedans, une fois que tu es à l'intérieur de la prison, la peur, tu vis constamment avec. Même quelqu'un qui est dur, même moi qui suis quelqu'un d'assez blindé, quand je suis en prison, c'est pas que j'ai peur, c'est que je reste craintif. C'est-à-dire, je suis comme un animal aux aguets, j'ai toujours les oreilles qui bougent, j'ai toujours les yeux qui bougent, je reste craintif. Voilà. Parce que c'est un moyen de défense. C'est-à-dire, ça te prévient, c'est comme la douleur. T'as mal quelque part, la douleur te dit attention, t'as un problème à tel endroit, tu vas voir le docteur. Donc en prison, la crainte, elle est toujours éveillée parce que c'est un instrument de survie. Voilà. Ça t'évite le baluchonnage à 6h du matin quand il débarque dans ta cellule à 6h qui te réveille en sursaut. Si t'es pas craintif, c'est-à-dire si tu te réveilles pas à 6h moins 5 parce que tu sens qu'ils vont débarquer, ils te prennent en plein sommeil, c'est un coup à faire une crise cardiaque. Donc la peur, c'est pas que tu t'en débarrasses, parce que si tu t'en débarrasses, c'est que tu es devenu fou, si tu n'as plus peur. En fait. Voilà. C'est que tu la raccourcis, tu raccourcis ton temps de peur. Et je vais essayer de ne pas être hermétique. Exemple, tu es agressé dans la rue. Bon, tu as peur et tu réagis. Voilà. Mais tu réagis des fois au bout de 3-4 minutes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir peur, mais réagir dans la seconde. C'est-à-dire que ta peur, tu la maîtrises, mais tu ne la perds jamais, tu la gardes. Et c'est le seul moyen à l'intérieur de tenir. Il faut toujours, bien sûr, avoir peur. C'est comme quand on est au volant d'une bagnole, si on n'a pas peur, on se crache.
Quel avenir et donc quel conseil tu pourrais donner à un jeune primaire révolutionnaire en prison, peut-être condamné d'ici peu à une longue peine ?
L'évasion. Je ne peux donner aucun conseil d'autre que l'évasion.
On ne peut pas profiter de la prison.
Si, on peut en profiter. On peut en profiter, mais dans le sens où on peut déjà se faire un bilan, faire un peu le point, et se préparer à se battre. C'est-à-dire que ça peut être une espèce de frontière que tu passes, mais il ne faut pas que ça dure. Parce que si ça dure trop longtemps, ça te rend cinglé. Ça te rend cinglé, et puis les failles et les séquelles sont terribles après quand tu sors. Mais le coup de « je suis enfermé, mais j'ai ma liberté intérieure », c'est du slogan. C'est du slogan. Moi, quelqu'un, c'est comme quand je vois un paralysé sur un fauteuil roulant qui est cassé en 8 et qui me dit qu'il se sent bien, que son handicap, il sait vivre avec. Je dis, je sais qu'il bluffe. Mais il a raison de bluffer, parce que ce bluff-là permet de tenir. Mais celui qui dit « moi, je suis en prison, mais mon esprit est libre », je ne vais pas dire c'est une connerie, mais c'est un placebo.
Sur cette phrase « ne me libérez pas, je m'en charge », t'en penses ? Est-ce que tu crois pas que c'est pas sympa pour les 63 000 qui sont dedans ?
C'est un peu une phrase toute faite, et cette phrase, elle appartient à Ali. C'est Ali qui a dit cette phrase dans « Parole de détenu », un bouquin qui était sorti. C'est une phrase d'Ali. Et « ne me libérez pas, je m'en charge », c'est aussi un pied de nez à l'administration pénitentiaire. Pas oublier qu'un directeur de prison avait dit « je préfère 10 suicidés qu'un évadé ». Donc c'est du domaine de la boutade. C'est du domaine de la boutade, donc c'est pas du mépris pour les autres prisonniers. Parce que chacun se charge lui-même de sa liberté, avec des moyens différents. Il y a la soumission, il y a la délation, il y a l'évasion, il y a la patience, et puis il y a l'intelligence. Beaucoup de gens sont assez intelligents pour écrémer leur peine, parce qu'ils savent nager à l'intérieur de la prison. Parce que justement, ils ont raccourci le temps de peur.
Donc toi, tu penses en fait en prison, il faut bien gérer sa peine, pas faire spécialement plus de vagues que ça, ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais pas faire de vagues pour essayer de raccourcir au plus la peine.
Bien sûr, l'écrémer au maximum. Mais on peut faire des vagues, voilà. Mais il faut savoir comment les faire. Un exemple tout simple, moi, les premières années de prison que j'ai fait, j'avais pas de parloir. Voilà, j'étais gamin, 18-24 ans, j'avais pas de parloir. C'est-à-dire, ma famille voulait venir me voir, j'ai refusé les parloirs. J'ai refusé les parloirs parce que j'ai de suite compris à l'intérieur de la prison qu'il y aurait une prise sur moi si j'avais des parloirs. Et c'est une époque où le travail était obligatoire. Et j'ai jamais bossé en prison, toujours refusé de travailler. Donc quand on me proposait de travailler et que je disais non, on me foutait au mitard. Donc j'étais en but avec le système. Et le fait ou que l'administration pénitentiaire sache qu'il n'y avait pas de prise, qu'il ne pouvait pas dire si tu n'es pas gentil, tu vas être transféré, et demain matin, ta maman, elle ne te verra pas. Hein? Ça ne marchait pas, parce que ma maman, elle ne venait pas. J'avais refusé les parloirs. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prise, à un moment, l'administration pénitentiaire te considère comme étant potentiellement dangereux. Parce que quelqu'un de dangereux, pour eux, ce n'est pas quelqu'un de violent ou d'ultra-violent. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable de leur dire non, sans violence, sans gros mots, sans rien de non. Voilà. Vous allez travailler ? Non. Et ça fait qu'à l'intérieur de la prison, tu vas en fin de peine, mais ils te donnent le minimum, non pas auquel tu as droit, parce qu'il n'y a pas de droit, rien n'est acquis, les remises de peine, c'est pas acquis. T'sais, les gens pensent que tous les ans, on a 3 mois comme ça, ils ne veulent pas les donner, ils ne les donnent pas. Voilà. Mais ils gèrent le truc en disant, bon, on va lui filer ces 3 mois par an, mais pas de conditionnel, pas de petits avantages d'aménagement de peine. Et quand tu sais, toi, que tu vas aller en fin de peine, l'administration pénitentiaire te laisse tranquille. Quand tu dis, écoute, moi je vais en fin de peine, qu'est-ce que tu veux me faire ? Ou même s'ils te mettent au mitard, quand tu dis, bon, le mitard, je peux y aller tout seul. C'est-à-dire, des fois, j'ai dit à des surveillants, écoute, mets-moi un rapport, mais me fais pas chier, parle pas avec moi, mets-moi un rapport, parle pas avec moi. Ouais, mais vous allez aller au mitard, mais on y va maintenant. Attendez, faut que je fasse un rapport, vous n'avez pas le droit. Des fois, ils me couraient après dans les couloirs, en disant, il va où ? Bah, il veut aller au mitard. Hein, il dit, mais non, Venotman, calmez-vous, venez. Tu vois, donc il y a des bras de fer. Mais si tu les fais dans la violence avec eux, dans la confrontation directe, t'es baisé. Faut les prendre à leur propre jeu.
Ça peut être un conseil.
Ce qu'il faut, c'est éviter de leur montrer tes faiblesses. Si t'as peur des araignées, si t'es agarophobe, je sais pas comment on appelle ça, il faut pas le dire. Parce que si jamais tu leur dis que t'as peur des araignées, le lendemain, ils t'en mettent une dans ta cellule.
T'as toujours mangé de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nous que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
Et c'est reparti pour 12 minutes avec un fed.
Une liberté de l'intelligence face à la bêtise de l'enfermement.
Il y a une intelligence, bien sûr. Voilà. Mais l'enfermement, c'est pas la bêtise qui nous enferme. C'est pas la bêtise carcérale qui nous enferme, c'est le pouvoir. C'est une autre intelligence. Parce que la prison, c'est quand même un système parfait. C'est un système parfait pour broyer les gens. Pour gérer la misère sociale, pour faire tourner la masse à l'intérieur, pour non pas réinsérer, mais recycler le prisonnier une fois de plus en prisonnier. C'est pas un échec, la récidive.
Donc, il se pourrait bien que d'ici peu, il y ait de plus en plus de révolutionnaires délinquants, mais à cause de la politique, qui finissent en prison. Et comme aux années 70, ça risque de politiser la prison.
Mais s'ils sont isolés...
C'est difficile de la politiser, la prison, parce que les gens arrivent en prison, pour la plupart, ils arrivent déjà détruits. La prison, ça les achève. Donc ils arrivent socialement détruits. Échec scolaire, échec affectif, échec familial, échec du travail. Donc ils accumulent des échecs comme ça, et la prison est le dernier. Et pour eux, est le dernier. Après, c'est le suicide, c'est la mort, c'est le renoncement, ils s'éteignent. Donc c'est très très difficile de créer ou de semer de la révolution sur un terrain mort, un terrain aride, sec. Voilà. Et ce qui s'est passé dans...
Les années 70, c'est... Oui, contre les QHS,
oui, oui. Dans les années 70, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'extérieur aussi qui a boosté l'intérieur. Il y a eu mai 68, on en pense ce qu'on veut, mais les émeutes de 70-74, parce que c'est ça les grandes émeutes. De 70-74, c'est la centrale de Clairvaux, toutes les centrales ont commencé à bouger, parce qu'il y a eu des exactions. C'est comme quand on parle des émeutes, moi c'est un samekeur, quand on parle des émeutes de 2005 dans les banlieues, et qu'on dit, oui, les émeutes, elles sont dues parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a de la ségrégation, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, tout ça, pour moi, c'est bidon. Les émeutes, elles ont eu lieu parce qu'ils ont tué deux de leurs enfants. C'est-à-dire, nous, on est dans la merde depuis des années, on a toujours réussi à bouffer, à se démerder. Malgré le chômage, malgré tout, même si on se vole un peu entre nous, entre pauvres, on a toujours réussi à survivre. Sinon, des pauvres, il n'y en aurait plus. Il n'y en aurait plus, des pauvres. Ça serait une espèce en voie de disparition. Voilà. Ils ont bougé parce qu'on commence à tuer leurs gosses. C'est pour ça qu'ils ont explosé. Et pas du tout parce qu'il y a du chômage. Alors, tous les sociologues sont arrivés, les psychologues, tatati, c'est ça, les politologues. La réalité, c'est qu'on tue leurs gosses. Ce qui s'est passé en 1974, c'est qu'il y a eu, une injustice flagrante. Il y a eu la tentative d'évasion de Charlie Bauer. Avant, il y a eu la prise d'otage de Buffet-Bontemps. Hein? Et Buffet-Bontemps a été au bout du truc. Il a dit, vous m'amenez une voiture, sinon je tue un otage, vous avez une demi-heure. Eux, ils ont essayé de jouer, de gagner du temps. Il a dit, vous voulez la jouer comme ça? Il a tué les otages au bout d'une demi-heure. Et après, faites ce que vous voulez. Quand il est passé en procès, il a dit, je vous avais dit de me condamner à mort. Bah, aujourd'hui, condamnez-moi à mort. Dernière volonté, je vais être guillotiné sur le dos. Donc tout ça, c'est des symboles carcéraux. C'est pour ça que je dis qu'une prison a sa mémoire. Et que les prisonniers ont aussi leur mémoire carcérale. Le problème avec les plus jeunes, c'est qu'ils n'ont pas l'historique derrière eux. Tu leur parles de 74, ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc par rapport à ça, quand il y a eu le massacre des 5-6 de Clairvaux, sous les yeux des prisonniers qui étaient aux fenêtres, ça a pété. Parce que une évasion, même ratée, ça se respecte. C'est-à-dire que même des surveillants de prison doivent respecter l'évasion. Quand il y a eu Beaumont qui s'est évadé en hélicoptère de Fleury Mérogis la première fois, les surveillants ont tiré leur casquette. Ils ont salué. Ils ont dit chapeau. Donc ce respect-là, le respect de l'évasion, n'a pas été respecté à Clairvaux. Les mecs se sont fait massacrer. Ils ont été mis au mitard, ils ont été massacrés. Les autres l'ont su. Voilà. Et ça a commencé à bouillir. En sachant aussi que la population de l'époque était une population de voyous. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, parce que ça, c'est très très peu dit. Il y en avait beaucoup qui étaient des anciens de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des soldats perdus, parce qu'il y a eu Messrine. Mais derrière Messrine, il y en a des centaines et des centaines dont on ne parle pas, qui sont arrivés dans les prisons françaises après la guerre d'Algérie. Et on les a condamnés à des peines de 15 ans, de 20 ans pour des hold-up, parce que c'était des militaires, ils pensaient militaires, commando, les attaques étaient faites de manière militaire. Et on leur mettait des 15-20 ans, ils arrivaient en cour d'assises, ils disaient « Mais monsieur le président, vous m'avez mis tant de médailles pour avoir tué des gens, et là pour une banque vous me mettez 20 ans ?» Donc il y avait déjà le terrain, la sensibilité politique qui venait de la guerre. Donc tous ces soldats perdus qui étaient dans les prisons françaises, dans les centrales, avaient déjà quand même un bagage politique et une manière de lutte qui était déjà militaire. Ce qui fait que ça a monté. Et il n'y avait pas, ou il y avait beaucoup moins, entre guillemets, de fous. Là, dans une prison française, si dans une cour de promenade sur 200 personnes, si tu en as 10 qui sont complètement cinglés, ils te parasitent n'importe quel mouvement. Ne serait-ce que, comme dans une réunion publique, tu peux avoir un élément perturbateur qui te casse ton truc. Voilà. Donc soit tu l'attrapes, tu le fous dehors, soit tu lui casses la gueule, soit mais à l'intérieur d'une prison, les 10 malades mentaux réels, ça va être très très difficile de gérer ça. Parce qu'il y a de plus en plus de... Avant, il y avait des pauvres en prison. Voilà. Aujourd'hui, il y a des miséreux, mais des miséreux graves, graves, graves. C'est avec des pathologies hyper lourdes. Hyper lourdes. Des pathologies que le monde social à l'extérieur a créées. Des gens qui ont pété des ponts, qui arrivent en prison, il y en a énormément. Donc faire un truc en les incluant, c'est compliqué. C'est compliqué. En essayant de rester lucide et objectif. Voilà. Mais donc dans les années 70-74, il y avait l'extérieur aussi. Il y a eu une tête pensante qui s'appelait Foucault, qui est montée au créneau. Il y a eu les anciens prisonniers qui sont sortis, qui ont rejoint le CAP et le GIP et tout ça. Donc il y a eu quelque chose de costaud. Aujourd'hui, avec l'Envolée, avec vous, avec Banc Public, avec l'ARPI, l'association de Catherine Kider, on essaye de faire un front commun, mais déjà de se mettre tous ensemble sur la ligne de départ, ça a été compliqué. Ça a pris du temps juste de se mettre tous ensemble, qu'un tel s'entende avec un tel et qu'un tel s'entende avec un tel. Et il a fallu beaucoup de temps, même à l'extérieur.
Est-ce qu'il faut forcément être révolutionnaire pour être contre la prison, c'était ça ?
Bien sûr que non, bien sûr que non. On peut être contre la prison tout simplement parce que on supporte pas l'idée même de l'enfermement. Il y a un groupe ethnique, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande ou des aborigènes, un ethnologue leur a parlé du crime en leur demandant eux comment ils faisaient pour juger le crime. Donc ils ont répondu, je sais plus trop comment ils géraient ça, et eux ont demandé à l'ethnologue, mais vous comment vous faites? Et ils ont dit on enferme. Ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire parce qu'ils disaient c'est une blague, c'est pas vrai, vous pouvez pas faire ça. Vous êtes en train de nous taquiner. Vous mettez un homme ou une femme dans une pièce et vous fermez la porte et vous le laissez comme ça. Ils croyaient pas, ils pensaient qu'ils blaguaient l'autre. Ils disaient c'est pas possible de faire ça à un homme, un être humain, c'est pas possible, quoi qu'il ait fait.
Est-ce qu'on peut sortir comme on est rentré? Est-ce que tu sortis comme tu es rentré?
Mais évidemment que non. Évidemment que non. Il y a on peut être plus blindé que les autres, on peut être plus costaud que les autres, ou atypique, ou un peu plus intelligent, ou un peu plus cultivé, peu importe. Mais on sort évidemment avec des séquelles, des failles, des faiblesses. Maintenant, soit on a la capacité de les montrer, voilà. J'appelle pas ça de la résilience, j'appelle ça de l'humanité. On est capable de dire à l'autre, bah voilà, j'ai telle blessure et telle plaie. De la même manière qu'on montre des cicatrices, on est à l'hôpital, on dit tiens, regarde la cicatrice qu'ils m'ont fait. Tu sors de prison, tu peux dire, tiens, voilà, je te parle de la cicatrice intérieure que j'ai par rapport à un truc.
Ouais, ça, c'est l'inverse de la résidence. Là, je pense à un autre copain que tu connais, peu importe, qui après 7 ans de placard, quand il est sorti, il n'arrivait pas à parler en restant assis, tout obligé de tourner. Ça dure un moment, quand même.
Oui, il bouge. Il bouge, c'est-à-dire il fait les 100 pas.
Et puis dès que tu parlais de quelque chose d'un peu sérieusement, il fallait marcher, quoi. Pas être assis à table. Tu mets longtemps pour sortir de prison, quand même.
Bah, tu mets longtemps pour sortir de prison si un jour tu t'es considéré comme étant prisonnier. Moi, j'ai toujours été un voleur. Je suis pas un voyou, hein, je suis un voleur. C'est pas du tout pareil. Et j'étais voleur avant la prison, je suis resté avec mon esprit de voleur dans la prison et je suis sorti avec mon esprit de voleur. Maintenant, si jamais t'es voleur, ensuite tu deviens prisonnier et ensuite tu sors et tu deviens ex-tolard, c'est que t'as perdu quelque chose.
Toujours en prison.
Donc, voilà, bien sûr. Moi, je suis un indécrottable voleur et quand tu m'as dit au début, t'es sorti de prison avant la prochaine fois, je t'ai dit bien évidemment.
Ouais, non, après, on est tous des...
Bien évidemment, parce que ma réinsertion, elle n'est pas possible. Elle est impossible. Elle est mentalement impossible, la réinsertion. Puisque si demain, quelqu'un vient frapper à ma porte et qu'il me dit je suis évadé, je ne vais pas lui dire, écoute, je suis réinséré, recèle de malfaiteur, c'est 5 ans, va dormir ailleurs. Je ouvre ma porte, tu fais rentrer d'or. Et ça coûte 5 ans, si tu te fais prendre.
Les Baumettes, ça fait partie des prisons qu'on dit encore vétustes, enfin anciennes. Et donc, il y a la promesse donc, de ces prisons neuves, nouvelles, donc là où tu parlais d'isolement. Est-ce que, enfin, ouais, donc, prison vétuste, en vérité, la vie est plus simple quand même, ou comment dire?
Plus la prison est vieille, plus elle a une histoire, plus elle a une histoire, plus elle a un mythe, et plus elle a un mythe, plus tu l'apprends, la prison. Quand tu arrives dans une prison neuve qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'historique, qui n'a rien, tu ne sais pas comment nager dedans. Donc moi, je préfère... De toute façon, je ne suis pas pour le confort carcéral. Du tout. Voilà. Qui rajoute des grilles, qui rajoute des chaînes, qui rajoute des verrous aux portes, qui rajoute des boulets, même s'ils veulent, que les mecs traînent des boulets derrière eux avec la chaîne. Voilà. Mais que ça dure pas longtemps. Voilà, je préfère faire un an dans une cellule pourrie, mais pourrie de chez pourrie, tu vois, même avec des rats et des cafards, que faire 10 ans dans une cellule toute neuve. Hein. C'est clair, elle était précise. Donc c'est la longueur des peines, la prison. C'est pas l'architecture.
Qu'est-ce que tu aurais un truc précis à dire aux détenus du sud de la France?
Un truc précis à leur dire? Déjà, un grand salut à Jean-Marc Rouillant. Bonjour à toi. Et puis, ce que je pourrais dire, c'est prenez soin les uns des autres, parce qu'à l'extérieur, personne ne prendra soin de vous. Ou ceux qui prendront soin de vous à l'extérieur sont si peu nombreux que ça devient peanuts. Donc à l'intérieur, prenez soin les uns des autres. Occupez-vous les uns des autres, soyez attentifs. C'est scandaleux quand même que...
Aimez-vous les uns les autres.
Oh non, pas du tout, aimez-vous les uns les autres. C'est prenez soin les uns des autres, faites gaffe aux copains, quoi. Faites gaffe aux copains. Quand on pense que maintenant, quand un type est emmené au mitard le soir, il gueule plus bande d'enculés de maton. Il gueule, je ne suis pas suicidaire.
Pour dire à tous les autres détenus qu'il n'a pas intention de se suicider.
Ouais, c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible. C'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Le type, la première chose à laquelle il pense quand les matons le traînent sur le sol pour l'emmener au star, il gueule, je ne suis pas suicidaire. Je m'appelle un tel, je ne suis pas suicidaire. Donc on est arrivé à ce degré de violence et de peur de la prison, parce que le type pense qu'il peut lui arriver du mal. Il faut effectivement que ceux qui sont derrière les portes et qui ont l'oreille ouverte soient attentifs. Soient attentifs aux autres, de la même manière que les autres sont attentifs à lui. Quoi. Ça c'est hyper important. Hyper important. Quand un mec crie dans sa cellule, c'est pas la peine de lui dire ta gueule par la fenêtre parce qu'il y a un match de foot et qu'il parasite le match de foot.
On écoutait, c'était donc à Fed, un interview qu'on avait pu réaliser pour une des chaînes il y a déjà maintenant quelques années, et voilà, qui nous permet de connaître un peu le personnage, et qu'on n'oubliera pas de saluer pour tout ce qu'il fait, notamment
et ouais.
Dans ses combats contre la prison après toutes les années qu'il a dû subir.
Parce que à Fed disait sur la fin l'importance de la solidarité entre détenus. Je crois que on a de cesse de le dire, et il faut le répéter encore, que c'est important que les détenus s'entraident, que voilà, ça c'est la base, quoi. Après, c'est difficile. C'est difficile parce que l'administration pénitentiaire fait tout pour diviser. Hein, c'est bien connu, diviser pour mieux régner. Notamment, et c'est le cas par exemple au Beaumet avec les histoires de cantine, le fait que beaucoup de détenus n'ont pas de tabac, sont obligés de taxer, du coup ça crée tout le temps des embrouilles sur ces histoires de minimum vital finalement, que ce soit de la bouffe, que ce soit du tabac, parce que les cantines mettent 3 semaines à arriver en cellule. Parce que c'est pas toujours possible quand on est à l'intérieur d'avoir de l'aide de l'extérieur, des mandats. Il y a aussi beaucoup de prisonniers qui n'ont pas de proches à l'extérieur, qui n'ont rien. Forcément, la pénurie organisée un peu par l'administration pénitentiaire et ses complices privés fait que c'est la galère, que tu as des mecs à l'isolement qui se tapent la tête contre les murs parce qu'ils n'ont pas de clopes. Et voilà, et que forcément, quand tout tourne autour de cette pénurie et de ce manque du minimum, c'est difficile en fait de s'engager dans une solidarité les uns envers les autres, quoi. C'est plutôt chacun pour sa gueule, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut que les détenus entendent pour briser ce genre de rapport, quoi. Et essayer d'aller vers une solidarité.
À mon avis, c'est les familles qui envoient les mandats aux prisonniers et prisonnières. Et en fait, les familles, ils ont de l'argent tous en même temps, plus ou moins, les payes, les trucs arrivent le 5, là, tout ça. Et donc, les mandats arrivent tous un peu en même temps. Il faut savoir que les mandats, quand ils arrivent, quand on ne les refuse pas pour des conneries, un truc qui n'est pas marqué, c'est juste. Et quand les mandats mettent au moins 10 jours, 12 jours à être sur le pécule cantinable. Voilà.
Et ensuite, au Beaumet.
Quand on cantine, on a une semaine après les choses. Donc il y a toujours du jet lag
après,
avec
ça,
tout
ça. Dans la plupart des prisons, au Beaumet, c'est 3 semaines.
Ah,
c'est-à-dire
voilà.
Que la commande, elle est prise en compte dans la semaine où tu remplis le bon, mais ensuite, il y a encore 2 semaines derrière.
Et c'est qui? C'est
avant d'être livré. Et je sais pas trop comment ça fonctionne au Beaumet. Moi, j'ai cru comprendre que c'était des dysfonctionnements qui étaient spécifiques au Beaumet parce que les Beaumet sont des mauvais payeurs. Donc, je pense que à l'inverse des différents tôles, aujourd'hui en France, c'est encore l'administration pénitentiaire qui gère les systèmes de cantine là-bas et qui du coup a des fournisseurs et que visiblement les fournisseurs livrent pas à temps parce que l'administration pénitentiaire paye pas à temps et que finalement ça leur sert bien à diviser.
Moi, je le dis souvent parce que j'étais à la MAF à Fleury. Les divisions, elles sont faites par la direction qui dit, c'est facile, hein, tiens, il y a une fouille quelque part, on dit que c'est un tel qui a balancé, tout ça. C'est la direction qui met des puces à l'oreille comme ça, fausses choses dans la tête des prisonniers. Et les prisonniers, je ne comprends pas qu'ils rentrent dans ce jeu, qu'ils continuent, qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de la direction, qui joue avec eux. Comme des petits pions, des petits soldats.
On n'oubliera jamais rappeler que si tu as un ami en prison, c'est le détenu et c'est surtout pas le maton. Voilà. Et encore une fois, on appelle à la solidarité. On va essayer d'aller doucement vers la fin de cette émission. On a envie d'en faire encore, vous faire encore écouter 2 témoignages. On va aller directement à celui de Georges Coutel. C'est, on pourra dire, méchamment dit. Quand tu sais que tu es en train de faire perpète, ce n'est pas simplement un jour après l'autre, non. Chaque jour, tu fais perpète en entier, avec les souvenirs, anticipant de plus en plus tes souffrances à venir. Et cette solidification des heures, quand elle se cristallise en gelée vitreuse, et la vie qui devient une maladie. C'est la plus terrible institution de notre époque que cette justice, fatiguée de surenchérir sur le crime qu'elle prétend punir, ne crucifiant plus, n'écartelant plus, ne dépeçant plus, n'empalant plus, ne brûlant plus et même ne décapitant plus. Il n'y a plus ni fer, ni roue, ni gibet, ni bûcher, ni rien. Ce qui remplace tout, c'est le temps, la vie amputée du temps. C'est ça la prison, du temps infligé dans sa nudité. On ne tue pas, on laisse mourir.
On ne tue pas, on laisse mourir. Et
du coup, peut-être pour dire d'où ça vient, c'est un extrait du bouquin Peine éliminatrice, qui est un recueil de plusieurs courriers parus dans l'Envolée. Je crois il y a de ça pas loin de 10 ans quand même.
Déjà un super petit bouquin à se procurer sur les effets et les méfaits surtout de la prison sur les gens. Donc très documenté. et notamment qui déclare sans ambiguïté aucune qu'au bout de, dans tous les cas, 3 à 5 ans de prison, on ressort de prison avec des pathologies incurables et définitives. Et
du coup, bah, on va poursuivre avec une lettre du mois d'août 2014 de Philippe Lalouel, dont on vous a déjà parlé. Alors, c'était il y a quand même quelques temps, c'était en février, notamment parce qu'il y avait eu son procès en appel. Et voilà, et donc à l'occasion de son procès, il a notamment déclaré qu'il ne souhaitait plus qu'une chose, vu qu'on lui déclare la guerre. Et bien, si c'est la guerre, que la porte de sa cellule explose et aille jusqu'en Colombie. Voilà, on écoute Philippe.
Ouais, encore une fois, c'est méchant. Hein.
Philippe purge une très longue peine. Depuis 2010, il demande à être transféré à la centrale de Lannemezan, vers Toulouse, pour être rapproché de sa compagne. En mars 2013, il est transféré à la centrale de Moulins, à 400 km de Lannemezan, de sa famille. Puis, en mars 2014, il est envoyé encore plus loin, au CNE, le Centre National d'Évaluation, du Centre Pénitentiaire de Réau, en Île-de-France, toujours plus loin. Il décrit à quel point cette évaluation est une mascarade. Ensuite, il est placé au quartier Maison Centrale, toujours dans cette prison de Réau, en attendant d'être, peut-être un jour, enfin, transféré près des siens à Lannemezan. Nous avons déjà raconté que les QMC sont des nouveaux concepts de mini-prison ultra-sécuritaire pour des longues peines. Expérimentés à Réau, en Île-de-France, ou à Nouillen, à côté de Lille, ces prisons sont des enfers. C'est des quartiers haute sécurité où les prisonniers étouffent. Ils sont censés subir cela de longues années. Ces quartiers ont vocation à devenir un modèle pour les futures prisons. À moins que, de l'intérieur comme de l'extérieur, des mouvements parviennent à remettre en cause ces projets.
Août 2014. Je me retrouve dans ce QHS tombe au secret où tout est fait pour provoquer le détenu. Pas un jour où il n'y a pas un problème. Le médical est nul à chier. Ils veulent recevoir personne. On est obligé de menacer. Moi, ils ne voulaient pas me recevoir. Le docteur dit aux détenus, c'est pas urgent, alors je veux pas le voir. Moi, j'ai averti l'unité sanitaire ainsi que la directrice. J'ai écrit à mon avocate, Boessel, pour leur tomber dessus. Ils ont dit à un mec pour pas l'envoyer à l'hôpital, tout comme moi, qui voulait lui faire une opération plastique ici. Ah, c'est un fou ce docteur. Tout ça pour éviter les extractions. Moi, De Tôle, Mont-de-Marsan et Moulin m'ont dit, faut aller à l'hôpital pour vous opérer des dents. Et ici, à Réau, ils veulent m'opérer ici, c'est les tarés. Ça, c'est juste un échantillon que je vous raconte pour le médical. Après, les matons des provocateurs et menteurs comme les chefs, etc. Tu sors de ta cellule, le maton te colle au cul, il a le toki-woki. Il dit à l'autre en bas, il descend. Alors qu'il a rien besoin de dire, il y a des caméras au centimètre carré. Et l'autre en bas, avec son truc, appelle le PIC pour qu'il t'ouvre des tonnes de portes à passer, plus un portique. Ils ont des oreillettes, les matons, je suis resté con en voyant ça. Ils se prennent pour le GIGN, ces cons. On se croirait dans un commissariat. Faut voir ces conneries ridicules. Ces matons, faut pas leur parler. Car à 100% sûr, en tout cas pour moi, c'est une affaire d'assises. Vraiment, ces QHS tombeau secret, je l'appelle comme cela car t'es dans une putain de structure très oppressante, étouffante sans être humain. Tu vois plus rien que ces gueules de... Et toujours les mêmes en plus. Une promenade, c'est une portion de camembert tout bétonné. Tu vois que le ciel. Même l'air qu'on respire est prisonnier ici, c'est étouffant. Je dis QHS tombeau secret. Secret, car quand t'es là-dedans, t'es aux oubliettes. Tu vois personne. Le courrier part quand ils veulent. Si t'as un problème de cantine, toi t'attends qu'ils te disent un truc. Et ben rien, ils font rien, ils s'en branlent. Résultat, ça part en couille et beaucoup de détenus, dont moi-même, serrons les dents jusqu'au jour où ça ira vraiment plus loin. Tu peux choper personne, le docteur ou le cantinier ou le cuistot. Car je vous en parle aussi. Ils vous donnent la gamelle, la même pendant 3 ou 4 jours. On le signale tous, hein, mais ça continue encore ce soir. Ils veulent que ça pète, en vrai, car même les matons tiennent pas le coup ici, ils en ont marre. Mais eux, rien à foutre. Ils ont signé, pas nous. Mais c'est pour dire que ça craint ici, à Réau. En fait, t'es en danger chaque jour ici. Les parloirs, ils te ferment dans une cabine. T'as le parloir de 14h à 17h, y a pas de machine à boisson, rien. Faut cantiner un bon de cantine, parloir, et t'amènes tes boissons, gâteaux pourris. Car faut voir les bons, hein. Fric. Que fric. Des parloirs fermés, s'il y a des enfants, ils explosent là-dedans. Ils passent sans cesse à surveiller de quoi péter les plombs. Fouille à corps, ce qui est terminé normalement vu qu'il y a le portique, eh ben non, ils te font passer sous le portique et les DPS à la fouille. Plus le caleçon, ils le prennent. Ça, il y a eu des embrouilles, hein. Moi, là, lors de mes premiers parloirs, je vais voir. Mais c'est embrouille sûre. La fouille à corps, ok encore, mais baisser le caleçon ou leur donner qu'ils baissent sa mère, là. Bref. C'est très dangereux de vivre cela. Ça peut aller très loin jusqu'à la mort. Car moi, il n'y a pas d'après si je démarre. Alors j'essaye d'éviter ces enculeries depuis que je suis là. Mais là, c'est vraiment, vraiment serrer les dents, pas de mots. Après tout ce qui se passe, et où on vit dans ces QHS tombeaux secrets. C'est comme si on t'achetait dans un puits et tu restes dedans et t'y crèves. Y a rien de rien, c'est mort. Porte fermée. Le boulot ? Un stage informatique payé 60 euros par mois. Hein. Centrale, ils appellent cela. Y a rien, rien. Je vous jure que de la provoque, des embrouilles chaque jour. Pas un jour, y a rien. On est 8 détenus dans l'aile où je suis. On dirait qu'ils doivent gérer Fleury Mérogis. J'en rigole de leurs conneries, vraiment, c'est hallucinant. Y a même pas de mots pour pousser plus loin, c'est inhumain. Il y a tout rétréci, compressé, tu sais même plus sourire ici. T'es vraiment mis hors société, séparé des êtres humains. Eh, bref. Voilà, c'est à abolir, à brûler cet endroit. Construire ça, c'est tuer les hommes et les femmes à feu doux, rien d'autre. Tu vis, tu te demandes pourquoi faire ici. C'est vrai, fallait laisser la peine de mort alors, hein. Façon de parler, hein, bref. Alors, la cantine hors de prix, 20% plus cher que la normale. Ça, plus le bigot, 150 euros en plus par mois. Plus les UVF, payer les cantines, plus les bons parloirs, mais il n'y a pas de machine. Plus les cantines pour que tu bouffes toi en cellule. Voyez la pompe infrique un peu. Et ils te mettent des stages à 60 euros par mois. Il n'y en a qu'on rien. Et la télé, 8 euros, plus le frigo, 5 euros. Mais pour nous, au QHS tombeau secret, le frigo, c'est 7,50 euros. La moitié des mecs ici, même moi, on perd des kilos. Hein. De cuistot qui nous met pendant des jours la même merde, c'est obligé. 5 jours de ratatouille, par exemple. On bouffe pas, hein, et ouais. Le secret. Le secret, rien se sait là-dedans. Faites-le savoir à des journalistes, des radios, que c'est une horreur, ces QHS tombeaux secrets. Ils ont construit ces merdes, et nous, actuellement, on est des détenus pilotes. Voir si ça marche ou pas, pour en fabriquer plein d'autres. C'est juste une pompe à fric, rien d'autre. Ma haine est immense. Ils ont intérêt à m'y mettre, Alan Mezan, après tout ce que je subis en fermant ma gueule. Car s'ils m'y mettent pas, c'est 5 années de rage qui vont sortir et je leur déclenche une guerre totale. Tout ça, tu peux le raconter à la radio. Ils n'ont pas le droit en 2014 de fermer des longues ou courtes perdes dans ces tombeaux. Chaque jour, c'est un danger ici pour chaque détenu. Je comprends mieux les prises d'otages dans ces QHS tombeaux secrets. Et tu sais, je modère mes écrits pour que tu aies cette lettre, car sinon je les pourrirais et déclarerais bien plus. C'est magnifique le monde, et si immense, et ils t'enferment dans un petit coin pour des années. Quelle honte à eux, à ces juges, présidents, à tous ces fachos. Courage à ceux qui sont dans ces isolements QHS tombeaux secrets. C'est sorti du cœur, ça, et c'est vrai, putain. Tu peux que être enragé après les enculeries. Faites savoir cela de partout, car ces endroits sont graves. Hein. La porte ira un de ces jours pour répondre à la demande d'une certaine personne. Vive la Colombie, bientôt ! Chalala ! Chut ! Je passe le bonjour à tous les frères. À Moulin, à Chabat, Vincent, à Alan Mezan.
Voilà, voilà, c'était en direct donc
de la
prison de Réau, voilà, d'où écrit. Et pour l'envoler, cette lettre.
Et voilà, et ben encore un salut à tous ceux qui sont derrière les murs. Et je rappelle l'adresse de Kamel, s'il y a des gens qui veulent lui écrire, lui envoyer une petite carte, voilà, montrer qu'il y a du soutien à l'extérieur. Kamel Bouabdallah, numéro 17-35-35, bâtiment D, MAH, centre pénitentiaire des Baumettes, 239, chemin de Morgiou, 13009, Marseille. Et puis, on va rappeler
43 rue de Stalingrad, 93100 Montreuil, 07-77-00-13-26, 07-77-13-26.
Ouais, et du coup, c'est la même adresse pour l'envoler.
Voilà, voilà. On n'a pas encore de boîte aux lettres, nous.
Donc, on rappelle 43 rue de Stalingrad, 93100 Montreuil. Donc, l'envoler, l'ARPI, c'est la même adresse.
Voilà, en tout cas, on vous rappelle aussi que si jamais vous voulez recevoir l'envolé et que vous êtes sur Marseille, vous pouvez aussi écrire à une des chaînes HDC 41 rue Jobin dans le 2e arrondissement de Marseille.
Le troisième.
Je me plante à la Juliette. Non, on n'est pas à la Juliette, on est à la Belle de Mai. Dans le 3e arrondissement de Marseille. Et voilà, soit on fera suivre à l'envolé, soit nous vous ferons suivre. On n'oubliera pas de parler donc de la cantine pour cantiner, et oui, qui va avoir lieu. Là, le sujet est plus que à faire sans transition ce vendredi à venir.
Et voilà, la cantine pour cantiner continue de plus belle. Ça fait 3 ans déjà qu'on se donne rendez-vous pour manger ensemble. 36 soirs jusqu'à tard, 36 mandats pour Michel Guélam. Souvent on a ri et bu, tout le temps on s'est régalé, tout en partageant l'envie de voir la fin de ses peines, l'effondrement de ses murs. 30 ans c'est long, très long, dedans plus encore. mais il regarde enfin dehors, alors ne regardons pas ailleurs. Pas question de se lasser, de le laisser. Car maintenant, il s'agit plus seulement de cantiner sa gamelle, mais aussi de mijoter sa sortie. La liberté n'a pas de prix, mais celle d'un prisonnier, si. Plus que jamais, partageons notre appétit de solidarité à la cantine, donc le 10 octobre, au 23 rue des Phocéens.
Et il y a une marche pour la liberté de Georges Ibrahim Abdallah, donc un communiste libanais militant de la cause palestinienne, emprisonné en France depuis 1984 et libérable depuis 1999, mais toujours pas libéré.